Tournez avec nous, s'il vous plaît, dans Ésaïe 57. Ésaïe, c'est dans l'Ancien Testament, grand prophète. On retourne 2700 ans en arrière ce matin. D'accord? Et je vais dire un mot de prière avant qu'on se tourne vers les Écritures. Père éternel, j'aime lire les prophètes parce que j'y découvre ton cœur, Père. J'aime lire les psaumes parce que j'y découvre le cœur d'un adorateur, Seigneur. Mais encore une fois, il y a quelques semaines, Seigneur, tu m'as béni en lisant ces chapitres d'Ésaïe. Tu es venu consoler mon cœur, tu es venu, Seigneur, me raconter encore une fois l'histoire de l'Évangile, Seigneur, de ta grâce et de ton amour. Et Père, ce matin, parmi nous, il y a des gens qui ont besoin d'être rassurés, d'être consolés. Il y a des gens, Seigneur, parmi nous ce matin, qui sont humiliés et contrits par leur folie, par leur péché. Peut-être que tu les as livrés aux conséquences de leurs actes. Peut-être qu'ils sont simplement conscients à présent de l'état de leur cœur. Peut-être, Seigneur, qu'ils ont appris à te connaître un peu plus et ils réalisent combien tu es saint et combien nous sommes pécheurs et souvent tordus. Je te prie pour ces personnes ce matin. Viens leur apporter ta consolation, Seigneur. Viens leur montrer ton cœur. Certains parmi nous, Seigneur, sont sûrement remplis d'orgueil et sont ici peut-être pour la forme. C'est toi qui le sais. Ils ne te connaissent pas et n'ont peut-être pas le sentiment d'avoir besoin de toi, Père. Je prie de leur parler aussi à travers ce beau passage où on voit ton cœur, Seigneur. Viens nous édifier, Seigneur. Viens nous parler de toi. C'est en Jésus-Christ que je te prie. Amen. Amen. Vous savez, on dit souvent que Dieu ne change pas. C'est vrai? Dieu est éternellement le même. Il était, il est et il sera. Dieu est à l'extérieur du temps. Dieu est. Et Dieu ne change pas. C'est vrai. On le dit souvent, mais c'est vrai. Et c'est vrai dans sa relation avec l'être humain aussi. Dieu ne change pas dans son rapport avec l'être humain. Un des endroits où on voit que Dieu ne change pas, c'est que Dieu a toujours été loin des hommes et des femmes orgueilleux et près des hommes et des femmes qui sont humiliés par leurs péchés, des gens qui réalisent leur folie. Le propre du péché, c'est la folie. C'est la folie de vouloir vivre sans Dieu, marcher sans Dieu, faire les choses à notre manière, dans une attitude complètement indépendante à l'égard de Dieu. Et Dieu a toujours été loin, éloigné des gens qui sont orgueilleux, entêtés à suivre cette voie-là, qui ont ce sentiment de ne pas avoir besoin de Dieu, et près de ceux qui sont humiliés intérieurement, profondément contrits, en constatant, en voyant l'état de leur cœur. Dieu a toujours été comme ça. Dieu a toujours eu compassion aussi des hommes parce qu'il connaît notre faiblesse. Et même si Dieu est indigné par le péché, Dieu a compassion des hommes parce qu'il connaît notre faiblesse. Laissez-moi le dire comme ça, il connaît notre bêtise. Et Dieu a compassion des hommes. Ça a toujours été comme ça. On le voit dans l'Ancien Testament, dans son rapport avec Israël. Dieu s'est choisi un peuple, il a choisi Israël, et on voit constamment la compassion de Dieu. On voit son indignation lorsqu'Israël se rebelle et s'éloigne de Dieu. Dieu est indigné par le péché. Mais il suffit qu'Israël commence à être malheureux dans son péché pour que Dieu vienne vers Israël, les relève, les reconstruise. On le voit dans le Nouveau Testament. Jésus dit qu'il vient pour guérir celui qui est malade, celui qui sait qu'il est malade. Il dit dans le sermon sur la montagne, « Heureux ceux qui pleurent, heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui savent qu'ils sont pauvres spirituellement. » On le voit à la toute fin de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, lorsque Jésus s'adresse aux églises, s'adresse aux chrétiens, certains d'entre eux qui se sont refroidis, qui ont pris une distance à l'égard de Dieu. On voit encore ce même regard de compassion de la part de Jésus qui dit « Tout ce que je veux, je suis là, je suis à la porte, je veux rentrer, je veux me rapprocher de toi, je veux t'aider à te relever, je veux t'aider à revenir à ton premier amour. » Dieu ne change pas. Il a toujours été le même dans son rapport avec l'être humain. Il est loin de la personne qui est orgueilleuse, qui ne veut rien savoir de lui, et il s'approche de la personne qui est humiliée par sa folie, par son péché. Le passage d'Ésaïe 57, c'est un texte prophétique. On est dans un livre prophétique de l'Ancien Testament. Je l'ai mentionné 2700 ans en arrière, si on part d'aujourd'hui ou à peu près, d'accord? C'est loin. Ça mérite une petite introduction juste pour ceux qui ne sont pas familiers avec les livres prophétiques de l'Ancien Testament, avec le genre de choses que vous allez entendre et lire là, qui sont par moments dures et troublantes et par moments touchantes et édifiantes. Personnellement, Dieu m'a consolé il y a quelques semaines de ça à travers ce chapitre-là. Dieu avait une consolation à m'apporter à moi en me révélant encore une fois son cœur, en me montrant encore son cœur. Et j'avais sur mon cœur de vous le partager, de vous montrer encore une fois combien Dieu est compatissant et bon. C'est un passage prophétique. Alors, juste pour vous mettre en contexte avant qu'Esther nous lise le texte, on est dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'était choisi un peuple, le peuple d'Israël. Dieu a choisi un peuple et a décidé de contracter une alliance avec ce peuple-là. Ça a commencé par une délivrance. Israël était esclave en Égypte, donc ils étaient sous l'esclavage des Égyptiens. C'était le cheap labor de l'époque, d'accord, en Égypte. Et Dieu intervient surnaturellement à travers son leader qui s'est choisi, Moïse, et il libère par des interventions surnaturelles. Dieu va contraindre le peuple égyptien à laisser Israël partir. Et une fois qu'Israël est libéré de cet esclavage-là, Dieu vient et leur dit « Maintenant, je vous propose de faire une alliance. » Je vous propose une alliance entre vous et moi. Je vous propose un mariage entre vous et moi. Voici ce que je vous offre. Vous avez vu comment j'ai pris soin de vous pour vous libérer, vous délivrer. Voici, je vous offre d'être votre Dieu. Moi, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je vais vous communiquer qui je suis, quelles sont mes vertus, quelles sont mes qualités, qu'est-ce que je suis comme personne. Combien je suis bon, amour, juste, compatissant, patient, droit. Vous serez mon peuple et vous porterez ces valeurs-là devant les hommes. Vous allez vivre en communauté ces valeurs qui me représentent. Et devant les hommes, vous allez être un témoignage vivant. Alors, au milieu de vous, on ne trouvera pas de vol, de meurtre, d'adultère, de débauche, de mensonge, d'infanticide, de viol. On ne trouvera pas ces choses-là au milieu de vous. Et vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple, je vous bénirai. Devant cette belle proposition, Israël a répondu, Amen. Oui, je le veux. C'est un mariage. C'est un mariage entre Israël et Dieu. Littéralement, c'est ça. Maintenant, toute l'histoire de l'Ancien Testament nous montre combien Israël a été régulièrement infidèle à cette union avec Dieu. S'est détourné de Dieu pour aller adorer d'autres dieux et se livrer à des cultes païens qui impliquaient tout un style de vie aussi qui allait tellement à l'encontre de ce que Dieu est dans ses valeurs. Alors non seulement il y a ce rejet de la personne de Dieu, mais il y a un style de vie qui va avec ça. Toutes sortes de cultes païens, souvent assez horribles, et c'est de ça dont il va être question dans les premiers versets. Dans les 10 premiers versets ici, d'accord? Alors, on parle de culte pour favoriser la fertilité, avec des scènes de débauche qui sont là. On parle d'infanticide où on donnait nos enfants au dieu Moloch, par exemple. Alors, soyez pas surpris, c'est un langage qui est cru. C'est ce que ça impliquait d'aller vers ces dieux-là, d'accord? Je vais juste vous éclairer sur la structure du chapitre, puis on lit le texte. Les deux premiers versets dans Ésaïe 57, Dieu va parler du juste, de celui qui veut marcher avec Dieu alors qu'il vit au milieu d'un peuple qui s'est rebellé contre Dieu. D'accord? Ça, c'est il introduit en parlant de la situation de ces gens-là qui veulent marcher comme il faut au milieu d'un peuple qui s'est rebellé contre Dieu. Dans les versets 3 à 9, Dieu expose. Il appelle Israël à comparaître devant lui, puis il dit, voici ce que vous avez fait. Et là, il va décrire les cultes qu'ils font, tout ça, jusqu'au verset 9. Au verset 10, il va mentionner que ça conduit Israël même à faire alliance avec des rois païens. Ils vont faire alliance avec des rois et ceci va les conduire, les impliquer dans des cultes païens avec tout ce que ça impliquait aussi. C'est de ça dont il est question au verset 10. Et puis à partir du verset 11, Dieu commence à parler de son cœur. Il dit « Maintenant, viens comparer devant moi. Viens parce que moi j'ai une histoire avec toi, j'ai une alliance avec toi. Si toi tu m'as renié, moi je ne t'ai pas renié. » Et du verset 15 au verset 21, on voit le cœur de Dieu. La compassion de Dieu pour ce peuple qui a été infidèle. Et vraiment, ça pointe vers l'Évangile. Ça pointe vers l'Évangile de Jésus-Christ. On est dans des textes prophétiques. Ceux qui sont familiers avec l'eschatologie, on parle de la doctrine de la fin des temps, c'est plus large que ça. Il y a vraiment plusieurs éléments qui pointent clairement vers l'Évangile. Ça, je n'aurai pas le temps de rentrer dedans ce matin, vraiment. On parle de la montagne sainte, tout ça. Je ne pourrais pas rentrer dans tout ça. Et la fin du chapitre se termine avec un avertissement. Pour ceux qui, malgré le fait que Dieu expose leur cœur, refusent de se repentir et s'entêtent dans le péché. Il y a un avertissement qui termine ça. Alors, on va écouter ensemble la lecture de la parole de Dieu, Ésaïe 57, les versets 1 à 21.
Le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés. Et nul ne fait attention que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. Il entrera dans la paix, il reposera sur sa couche, celui qui aura suivi le droit chemin. Mais vous, approchez ici, fils de l'enchanteresse, race de l'adultère et de la prostituée. De qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous une large bouche et tirez-vous la langue? N'êtes-vous pas des enfants de péché, une race de mensonges, s'échauffant près des térébintes sous tout arbre vert, égorgeant les enfants dans les vallées sous des fentes de rochers? C'est dans les pierres polies des torrents qu'est ton partage. Voilà, voilà ton lot. C'est à elle que tu verses des libations, que tu fais des offrandes. Puis-je être insensible à cela? C'est sur une montagne haute et élevée que tu dresses ta couche. C'est aussi là que tu montes pour offrir des sacrifices. Tu mets ton souvenir derrière la porte et les poteaux, car loin de moi, tu lèves la couverture et tu montes. Tu élargis ta couche et tu traites alliance avec eux. Tu aimes leur commerce. Tu choisis une place. Tu vas auprès du roi avec de l'huile. Tu multiplies tes aromates. Tu envoies au loin tes messagers. Tu t'abaisses jusqu'au séjour des morts. À force de marcher, tu te fatigues. Et tu ne dis pas, j'y renonce. Tu trouves encore de la vigueur dans ta main. Aussi n'es-tu pas dans l'abattement. Et qui redoutais-tu? Qui craignais-tu pour être infidèle, pour ne pas te souvenir, te soucier de moi? Est-ce que je ne garde pas le silence et depuis longtemps? C'est pourquoi tu ne me crains pas. Je vais publier ta droiture et tes œuvres ne te profiteront pas. Quand tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera-t-elle? Le vent les emportera toutes, un souffle les enlèvera. Mais celui qui se confie en moi habitera le pays et possédera ma montagne sainte. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. À cause de ton avidité coupable, je me suis irritée et je l'ai frappée. Je me suis cachée dans mon indignation. Et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies, et je le guérirai. Je lui servirai de guide, et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Je les guérirai. Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu.
C'est un passage prophétique, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. C'est un passage qui parle de la venue de Christ. Les indices sont subtils dedans. Il faut lire Ésaïe 53, 54, 55, 56, mais ils sont là dedans. La question de la montagne sainte, lorsque Dieu dit à la fin « Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près ». Si vous allez un petit peu plus tôt dans les chapitres précédents, on voit qu'il est en train de parler des nations, d'un peuple qui n'est pas le peuple d'Israël, qui va venir vers Dieu. Alors je crois que cette prophétie-là trouve son accomplissement entièrement dans la venue de Jésus-Christ. Mais ce matin, je ne vais pas passer le temps qu'on a à faire le lien puis à exposer la dimension prophétique de ça. Ce que je voulais faire avec vous, c'était regarder le cœur de Dieu. Lorsque je partageais ça avec Esther, j'en parlais avec Danny, il me disait « Ah, ça s'inscrit un peu dans la suite de la série qu'on est en train de faire. » Ben, peut-être, c'était pas intentionnel. Mais ça nous parle encore une fois du cœur de Dieu. D'accord? Alors, rapidement, juste vous commenter, juste placer des choses. Comme vous le voyez dans les versets 3 à 10, Dieu est en train de parler de ce qu'Israël a décidé de faire. Israël a décidé de se rebeller contre Dieu. Et lorsqu'on arrive au verset 3, Dieu les appelle à comparaître devant lui. Il dit, « Mais vous, approchez ici, fils de l'enchanteresse, race de l'adultère et de la prostituée. » Dieu est en train de parler d'Israël ici. Mais on sent à travers tout le texte combien Dieu est indigné par le péché. Je lisais ce chapitre-là. Moi, j'avais été bouleversé pour moi-même et édifié. Puis je me préparais à vous le partager. Puis je me disais, on est tellement loin dans notre société de cette indignation envers le mal. D'accord? Ce qui est décrit ici... Aux yeux de Dieu, ce sont des choses absolument horribles, que ce soit les, comme je disais tout à l'heure, les rituels liés à la fertilité où il y avait des scènes de débauche. Puis j'étais là, puis là, je lisais ça, puis je me disais, mais c'est parce que ça a presque de l'air normal dans notre société, cette histoire-là. Comprenez? Et puis là, plus loin, il parle des infanticides, c'est-à-dire ces gens qui allaient offrir leur enfant en sacrifice pour le culte au dieu Moloch. Moi, je comprends qu'on dit non, on ne fait pas ça, mais en même temps, je veux dire, l'avortement, c'est quand même ça aussi. Et ça s'est rendu, je veux dire, juste dire que l'avortement serait quelque chose d'abominable aux yeux de Dieu, on a déjà de l'air d'un arriéré mental. Et, alors, je lisais ça, puis je me disais, oh boy, c'est parce qu'on vit au milieu de ça en réalité, et le danger est très, très fort pour nous de ne plus réaliser combien le péché, le mal indigne Dieu. Dieu est indigné profondément par le péché. Et c'est ça qu'il décrit ici à travers un langage qui nous semble des fois plus poétique. Mais lorsqu'il parle des pierres, ta place est avec les pierres, il est en train de parler d'un culte ici. Et donc, il est en train de parler de ces cultes qui se faisaient aussi sur les montagnes, près des térébintes. Et là, il y a des descriptions avec une connotation sexuelle très évidente. Tu vas t'échauffer près des térébintes. Tout ça, comme je vous dis, c'est de ça dont il est en train de parler. Israël s'était éloigné de Dieu pour aller vers d'autres dieux et entrer dans le style de vie qui allait avec ça. D'accord? Et pour eux, ça devenait une norme. Non seulement Dieu était indigné par l'idole, par le fait que ça implique de rejeter Dieu pour aller vers ses idoles, mais aussi par les péchés qu'il y avait avec ça et ce que ça impliquait, alors qu'Israël avait été choisi par Dieu pour le représenter sur la terre. Comme l'Église a été choisie par Dieu pour le représenter parmi les hommes. Ici, pour nous, vivre au milieu d'une société qui a un autre système de valeurs nous amène progressivement à adopter un peu le même système de valeurs et ne pas être indigné par le manque de pudeur, par exemple. Quand j'étais en train de penser à ça, puis là, je me disais, oui, mais c'est parce que juste la pudeur, c'est même pas une valeur intéressante dans notre société. Je veux dire, le corps sert juste à te mettre en valeur. Cette idée d'avoir une notion de la sainteté pour le couple, puis tout ça, oublie ça, c'est bon pour les arriérés. Parce qu'on vit au milieu de ça. Nous vivons dans une nation qui vit ça constamment. D'accord? Puis en fait, la réalité, c'est que notre culture se fait un point d'honneur d'être à l'avant-garde de tout ça. OK? Puis je ne suis pas en train de dire que tout ce qu'il y a dans la culture est mauvais. Je pense que vous savez que ce n'est pas ça ma pensée, loin de là. Mais nous... Notre culture est très, très fière d'être à l'avant-garde de tous ces éléments-là où on fait éclater toutes les choses. Je lisais encore le commentaire d'une politicienne cette semaine qui disait « Ah, c'est probablement à cause de notre contexte, notre arrière-plan judéo-chrétien, qu'on a gardé ça, j'espère que ça va continuer à tomber, tout ça. » On est en train de se libérer de cette vision de la sainteté, de la pureté, de la beauté, de ce qui glorifie Dieu, d'avoir des relations qu'on construit sur la fidélité. D'accord? On est en train, notre culture est en train de se libérer de ça. Lorsqu'on arrive ensuite de ça au verset 10, en fait verset 9, il dit « Tu vas auprès du roi avec de l'huile et tu multiplies tes aromates, tu envoies au loin des messagers, tu t'abaisses jusqu'au séjour des morts. » Et Dieu est en train de dire « Qu'est-ce que tu ne ferais pas pour te livrer à ton péché? Jusqu'où ne serais-tu pas prêt à aller pour pouvoir aller consommer ce péché que tu désires jusqu'au séjour des morts? » Tu vas détruire tout dans ta vie. Tu vas te livrer à n'importe quoi dans cette poursuite-là. Et au verset 10, il dit, à force de marcher, parce qu'Israël est en train de traiter des alliances avec des dieux éloignés, tu envoies tes messagers au loin. À force de marcher, tu te fatigues et tu ne dis pas, j'y renonce. Et cela reflète la réalité lorsqu'on est accroché à un péché, lorsqu'on est consumé par le désir de faire quelque chose qui va déplaire à Dieu. Il y a un épuisement qui va avec ça. La majorité des péchés tous les péchés qu'on fait ont un incident sur nous, mais la majorité, on peut le voir même de nos propres yeux, qu'il y a quelque chose de nocif dans tout ça, il y a quelque chose de malsain. Et pourtant, même s'il y a un épuisement pour suivre le péché, on retrouve une vigueur là-dedans, on se fortifie. Et c'est ce qu'il dit au verset 10. Il dit, à force de marcher, tu te fatigues et tu ne dis pas, j'y renonce, mais ça n'a pas de bon sens, je suis dans un processus d'autodestruction. Non. Non, 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 tu ne dis pas ça. Au contraire, dans la suite, il dit, tu trouves encore de la vigueur dans ta main, aussi n'es-tu pas dans l'abattement. Tu es dans un processus d'autodestruction, tu t'es abaissé au verset 9 jusqu'au séjour des morts, dans tes pratiques, dans ce que tu fais, tu es en train de te détruire, c'est épuisant, c'est destructeur, mais tu renouvelles tes forces. Et il y a une force à poursuivre le péché. Il y a une force dans cette poursuite effrénée où on trouve quelque chose qui nous dit « Ah, encore! J'y vais! Encore! » Et puis au verset 11, Dieu dit « Et qui redoutais-tu? Qui craignais-tu pour être infidèle, pour ne pas te souvenir, te soucier de moi? Est-ce que je ne garde pas le silence et depuis longtemps? » C'est pourquoi tu ne me crains pas. Simplement, Dieu est en train de dire, est-ce que tu aurais voulu que je te frappe? Est-ce que c'est parce que je t'ai laissé aller dans ta folie que tu m'as oublié? T'en es venu à dire, Dieu n'existe pas puisqu'il me laisse aller là-dedans. C'est ça, t'aurais préféré que j'intervienne et que je te châtie. Et toute l'histoire d'Israël est remplie de ça, où on voit, Dieu avait dit au départ dans l'Alliance, voici, si tu pèches, je ferai ceci. Et combien de fois on voit la patience de Dieu? Israël s'éloigne de Dieu et Dieu est patient. Et si vous êtes chrétien depuis quelques années, vous savez aussi dans votre propre expérience personnelle que Dieu est patient. Et Dieu ne nous donne pas ce qu'on mérite. Les trois quarts du temps, Dieu fait grâce. Et oui, on va se repentir, mais les conséquences qu'il pourrait nous laisser, on pourrait avoir assumé les conséquences de notre folie, tout ça. Dieu nous prive de ça, il nous garde de ça. Et Dieu est en train de dire ici, mais est-ce que c'est parce que j'ai été patient avec toi que tu en es venu à ne pas me craindre? Avais-tu besoin que je te frappe? Avais-tu besoin que je te châtie pour commencer à avoir un peu de bon sens? Est-ce qu'en fin de compte, c'est moi qui aurais contribué à te laisser dans ta folie parce que je ne t'ai pas frappé? Le verset 12 est super important. Extrêmement important. Dieu dit, très bien, je vais publier ta droiture. Si vous vous demandez si Dieu a le sens de l'humour, c'est de l'ironie à la puissance 10, d'accord? C'est de l'ironie à la puissance 10 ici. Il dit, OK, c'est beau, je vais publier ce que tu estimes être ta droiture. Et voici ce qu'il dit, tes œuvres ne te profiteront pas. C'est correct, j'ai été silencieux trop longtemps, je vais publier ta vie pour ce qu'elle est. Je vais la mettre sur la place publique, je vais l'exposer devant moi, je vais l'exposer et on verra si ta vie est aussi droite, si cette poursuite que tu avais. Parce que vous voyez, lorsque le cœur humain se livre au péché, il y a tout un processus d'auto-justification dans lequel on entre, puis finalement on trouve un paquet de bonnes raisons pour dire que ça a de l'allure ce qu'on est en train de faire. Mais quand Dieu décide qu'il expose notre vie pour ce qu'elle vaut vraiment, il n'y en a plus de jeu. Je ne peux plus essayer de justifier tout ça. Et Dieu peut le faire de toutes sortes de manières. Ultimement, Dieu va le faire pour tout homme lorsqu'on va se présenter devant lui. Honnêtement, devant le Dieu trois fois saint, je veux dire, notre droiture ne sera rien. Nos œuvres ne nous profiteront pas. Si ce n'est pour la grâce de Christ, nos œuvres ne nous profiteront pas. Un peu plus loin, Dieu dit, je ne veux pas contester, garder une éternelle colère contre mes créatures qui sont défaillantes en ma présence, qui perdent connaissance en ma présence. Lorsqu'elles se présentent devant moi, toutes les games tombent. Il n'y en a plus qui tiennent. Et ta droiture, t'as tenu le masque. Les hommes sont peut-être assez naïfs pour te croire, mais devant moi, il n'y en a plus. Alors, ultimement, un jour, on va se présenter devant Dieu et je vous assure que nos œuvres ne nous profiteront pas. Mais Dieu peut le faire d'autres manières aussi. Lisez les journaux de ce temps-ci. Lisez les journaux, il y a plein de gens que Dieu est en train de publier leur droiture. Hein? Il y a des enquêtes, il y a des choses qui sortent, il y a des gens qui paraissait bien tout ça, tant politique que dans l'industrie ou toutes sortes d'endroits, d'accord? De temps en temps, c'est triste de le dire, mais c'est la vérité, on entend des scandales avec des hommes de Dieu, des pasteurs. Dieu publie leur droiture et leurs œuvres ne leur profitent pas parce qu'ils sont exposés. Dieu peut le faire dans ma vie personnelle, tout simplement dans mon foyer, dans ma relation de couple, auprès des gens autour de moi, où à un certain moment donné, ce jeu-là que je jouais en portant un masque est exposé. Et je suis vu pour ce que je suis pour de vrai. Il n'y en a plus de jeu. Parfois, c'est juste la fin de la vie d'une personne. Parfois, tu regardes la fin de la vie d'une personne, puis la fin de sa vie est tellement triste et pathétique. Puis même celui qui n'est pas chrétien est capable de dire, « Bof! » C'est ça qui a construit toute sa vie, dans le fond. Je veux dire, on l'a toujours soutenu, on l'a toujours encouragé, mais dire, soyons honnêtes, c'est juste ça que cette personne-là a construit, puis elle est en train de le récolter. Des gens qui finissent leur vie seuls, sans petits-enfants pour venir prendre soin d'eux, sans personne pour les aimer, puis il y a un style de vie qui les a conduits là. C'est pas le cas pour tout le monde, mais des fois, c'est ça, d'accord? Souvent, Dieu va le faire simplement en nous livrant aux conséquences de nos actes. Je pêche, il y a une conséquence naturelle. Puis Dieu ne me protège pas de cette conséquence-là. Et mes œuvres sont publiées. Et il dit au verset 13, 12, premièrement, « Je vais publier ta droiture et tes œuvres ne te profiteront pas. Quand tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera-t-elle? » Le vent les emportera toutes, un souffle les enlèvera. Alors, une question concrète pour nous ce matin. S'il y a quelque part dans notre vie, soit parce que nous ne connaissons pas Jésus-Christ et on est juste étranger à tout ça, soit parce qu'on est chrétien, mais on poursuit une idole, on poursuit un péché dans notre vie. Rappelez-vous la semaine dernière, dans Éphésiens 5, l'apôtre Paul dit que la débauche, la cupidité, toutes ces choses sont en fait de l'idolâtrie. D'accord? La question pour nous ce matin, c'est s'il y a un péché que je poursuis de manière effrénée, je suis en course derrière ça. Quand Dieu va exposer les choses pour ce qu'elles sont, ce péché-là, qu'est-ce qui va t'apporter de bon? Est-ce que c'est lui qui va te délivrer ou est-ce que c'est l'Éternel qui va te délivrer? Et si cette passion qui est en toi, passion dans le sens négatif, hein? Je sais qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'avoir de la passion, c'est pas de ça que je parle. Je parle d'un désir effréné de se rebeller contre Dieu, de faire les choses à ma manière, à l'encontre de ce que Dieu veut. Mais si dans ma vie il y a une telle poursuite du mal et que je suis consommé par ça, bien j'ai une idole dans ma vie. J'ai une idole dans ma vie. Des fois ça peut être avec des choses qui sont en fait neutres. D'accord? C'est différent pour chacun d'entre nous. Peut-être que ton idole, c'est le fric. C'est l'argent. Il en manque toujours un peu. Il n'y en a jamais assez. Puis, si j'en ai assez, bien, je commence peut-être à être heureux, mais il m'en manque encore un peu. Et si je commence à en manquer, la vie ne va plus. Il n'y a plus rien qui tourne. Peut-être que c'est le gym. Le gym, c'est quelque chose de bon, hein? Mais peut-être qu'il y a un culte derrière ça aussi. D'accord? Alors, c'est quelque chose de neutre, c'est quelque chose même de saint. Mais je poursuis ça et j'ai un culte du corps qui est derrière ça, un culte de l'image qui est derrière ça. Et je poursuis ça d'une manière effrénée. C'est devenu une idole dans ma vie dans ce cas-là. Peut-être que c'est la sexualité. J'ai une soif, un désir pour ça qui est incontrôlé, qui est malsain, qui est destructeur, qui n'est pas selon le dessein de Dieu et je poursuis ça. C'est une idole dans ma vie dans ce cas-là. Et s'il fallait que Dieu publie mes œuvres, est-ce que c'est ça qui va prendre ma défense? Dieu dit, tes idoles ne te défendront pas. Elles ne sont là que pour te détruire. Ces mensonges que tu gardes dans ta vie ne te défendront pas lorsque je vais les publier. Ils ne sont là que pour te détruire. Dieu peut publier nos œuvres tout simplement en ouvrant notre conscience, en éclairant notre conscience aussi. Et je crois que ça fait partie de ça. Parce que Dieu peut nous montrer simplement notre vie pour ce qu'elle est et ce qu'elle vaut. Et ça, c'est une grâce extraordinaire. Lorsqu'à un certain moment donné, tu commences à avoir dans la bouche un goût amer, le péché commence à goûter ordinaire. Tu le poursuis, puis tout de suite après, ça ne goûte pas bon. Et Dieu est en train d'éclairer les yeux de ta conscience pour te montrer ta vie pour ce qu'elle est, ce péché pour ce qu'il est. À partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe dans le texte. Et on voit le cœur de Dieu apparaître. Jusque-là, Dieu est en contestation. Il est en contestation, il est indigné par le mal, par le péché. Il prononce un jugement, il n'est pas capable de rester dans la présence du mal. Mais à partir de ce moment-là, on va voir la compassion de Dieu qui vient se manifester. Regardez bien la suite du passage. « Quand tu crieras, verset 13, la foule de tes idoles te délivrera-t-elle? » Le vent les emportera toutes, un souffle les enlèvera. Mais celui qui se confie en moi héritera le pays et possédera ma montagne sainte. On dira frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Et soyez bien attentifs à partir du verset 15, s'il vous plaît. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Dieu est en train de dire, c'est vrai que je suis saint. Et je suis indigné par le mal que vous faites. Et je suis scandalisé, dans mon cœur, je suis scandalisé par votre débauche, par votre bêtise, par votre folie, par votre manque de maîtrise de soi, par vos mensonges, par vos fourberies. Je suis scandalisé parce que moi, j'habite dans la sainteté. Je ne suis pas comme vous. Il y a des mille et des mille de lieux entre vous et moi. Puis Dieu dit une parole de grâce. Une parole de grâce absolument extraordinaire. Il dit, mais je suis prêt. Je suis avec l'homme et la femme qui a le cœur contrit, qui est humilié. Qui est humilié par son péché. Qui reconnaît sa bêtise et sa folie. Et vous savez quoi? Il n'y a rien de plus beau et de plus grand pour un être humain comme bénédiction que d'avoir Dieu près de lui. C'est la plus belle grâce que Dieu peut nous accorder, d'être tout près de nous, d'être à côté de nous. Pensez au sermon sur la montagne. Au sermon sur la montagne, Jésus dit « Heureux celui qui pleure, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont pauvres en esprit. » Dieu est en train de dire « C'est vrai que je suis saint. C'est vrai que je suis scandalisé par le mal qu'il y a dans ton cœur, dans ta vie. » Mais je suis aussi tout près de celui qui a le cœur contrit et humilié. Il dit à la fin du verset 15, il dit « Afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Dieu vient tout près de celui qui est confondu par sa folie. Dieu s'approche de la personne qui réalise sa bêtise. Son orgueil, sa rébellion. Dieu vient tout près et s'approche de ces gens-là. Dans quel but? Afin de les ranimer, afin de les reconstruire, afin de les relever, afin de les bénir. Je suis près de ces gens-là. Si vous êtes actuellement à cet endroit-là, parce que depuis un temps, vous souffrez intérieurement par votre folie. Vous avez vu votre péché pour ce qu'il est. Dieu est près de vous. Dieu s'est approché de vous. Et la victoire n'est peut-être pas là, les combats sont peut-être toujours là, mais si vous êtes humilié par votre péché, Dieu est près de vous. Vous savez, des fois, des gens disent « J'ai l'impression que Dieu est loin de moi. » J'ai l'impression que Dieu n'est pas près de moi. Et parfois, c'est simplement parce qu'on n'accepte pas cette grâce-là, que Dieu s'approche de l'être humain lorsqu'il s'humilie devant Dieu, lorsqu'il reconnaît sa faiblesse, ses niaiseries. Mais ça se peut aussi que vous ayez raison. Ça se peut aussi que vous ayez raison et que Dieu ne soit pas près de vous. Parce que Dieu n'est pas proche des grosses têtes. Dieu est loin des orgueilleux. Et si votre posture, la manière que vous vous tenez devant Dieu, intérieurement dans votre cœur, vous avez cette attitude indépendante et condescendante à l'égard de Dieu, Dieu est loin de vous. C'est sûr que Dieu est loin de vous. Ne cherchez pas à le sentir près de vous. Dieu est près des cœurs humiliés et contrits afin de ranimer les esprits. Humilier les cœurs contrits. Verset 16, il dit « Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. » Et pour moi, c'est encore la grâce de l'Évangile. Dieu sait de quoi nous sommes faits. Vous comprenez, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui t'a tricoté. Il sait que tu es un rebelle. Il sait que tu as une tête de cochon. Dieu sait tout ça. Et Dieu sait très bien que le jour où tu vas te présenter devant lui, tu vas juste te taire. Hein? Je te dis, tu vas te taire. Tu sais, il y en a, non, on va s'arranger avec lui l'autre bord. Non, tu ne t'arrangeras pas avec lui l'autre bord. Tu n'auras même pas la pensée. Tes idées ne seront même pas claires pour prendre ta défense. Parce qu'il est saint. Et parce qu'il est Dieu. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Tu es juste un des 7 milliards d'êtres humains qui va bientôt s'éteindre. C'est tout ce que tu es. « Ah, tu es une créature merveilleuse. » Tu n'es pas Dieu. Et tu vas te présenter devant lui un jour. Mais voyez-vous, le cœur et la grâce de Dieu, Dieu dit « Je ne veux pas contester. » Je ne veux pas contester à toujours ni garder une éternelle colère quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. » Il dit, « C'est vrai que je vous ai puni. » Verset 17, « À cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation. » Dieu est indigné par le mal. Dieu ne tolère pas le mal. C'est intolérable pour lui. Et Dieu détourne le visage devant le mal. Et c'est vrai que j'ai frappé. C'est vrai que j'ai puni. Et ça a eu des conséquences. Et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. Je sais qu'on dit aujourd'hui, « Ah, suis ton cœur. » Dans le langage biblique, c'est dangereux. C'est très, très, très dangereux. Suis ton cœur, quitte ta femme. Suis ton cœur, fraude. Suis ton cœur, fais des affaires comme ça te tente. Suis ton cœur, défends tes droits. Ah ouais, écrase l'autre. Suis ton cœur, rebelle-toi contre Dieu. Non, tu es un des 7 milliards qui va se présenter devant Dieu un jour. Et Dieu dit, je suis indigné par le mal, je suis indigné par le péché. Je suis scandalisé. C'est vrai, j'ai frappé. Et c'est vrai, le rebelle a suivi le chemin de son cœur avec toutes les conséquences que ça implique. Mais encore une fois, sa grâce. Il dit, je l'ai vu. J'ai vu ses voies. J'ai vu sa rébellion. J'ai vu toutes les conséquences. Ça m'a scandalisé. Verset 18, il dit, j'ai vu ses voies. Je le guérirai, je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Dieu veut guérir, consoler, relever tous ceux qui pleurent sur leur péché. Et voyez-vous, c'est encore une fois la grâce de l'Évangile qui est là. Voici comment Dieu nous regarde. Lorsqu'à un certain moment donné, il expose notre vie pour ce qu'elle est, on est confronté à notre bêtise, à nos péchés, et Dieu nous regarde et nous dit, « Je sais tellement que tu n'es pas capable de te sortir de là. Je sais tellement que tu ne connais plus le chemin. Tu as suivi le chemin de ton cœur. Laisse-moi te prendre par la main et te guider pour revenir à la maison. Laisse-moi aller te consoler parce qu'il y a, une montagne de culpabilité qui accompagne souvent le péché. Laisse-moi te consoler. Laisse-moi te guérir. » Vous savez que le péché, c'est une maladie. C'est une faute. Je suis coupable et responsable de mes péchés. Mais c'est aussi une maladie comparable à la folie. Et c'est là et ça nous tient. Et on a besoin que Dieu, dans sa grâce, vienne guérir ce cœur pervers. Pour lui donner, la semaine dernière, je vous l'ai dit, moi, là, quand je vais être grand, là, je veux juste aimer le bien comme Dieu. Et ça, c'est la guérison que Dieu apporte dans mon cœur. Il est en train de m'apprendre à aimer la sainteté et le bien comme lui, prendre plaisir à la droiture, à la justice, à la bonté, à la sainteté, à la vérité. Il est en train de me guérir de ma folie. Et combien de fois j'ai prié à Dieu et j'ai dit, « Seigneur, je suis humilié et brisé par ma faute, mais je n'ai pas la moindre idée comment je sors d'ici. Je ne connais pas le chemin, Seigneur. Ah, tu peux m'exposer, tu peux me livrer à toutes mes conséquences. Ce n'est pas de ça que je te parle, Seigneur. Mon cœur doit trouver le chemin vers toi, Seigneur. Mon cœur doit trouver ce chemin-là. Je ne sais pas par où je commence. » Voici cette parole de grâce que Dieu prononce pour toi. « Je vais te guider. » Je vais te guider pour sortir de là. Je vais te consoler. Je vais te guérir. Et regardez bien la fin. Verset 19, il dit, « Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Je vais venir déposer dans ton âme cette paix profonde de savoir que tu marches avec Dieu. Je vais venir placer de la louange à nouveau sur tes lèvres. Et tu vas trouver cette paix en toi. » Et le contraste est frappant parce que dans les versets 20 et 21, Dieu avertit celui qui s'entête, la grosse tête, là. Celui qui dit « je vais faire comme je veux ». Dieu l'avertit au verset 20 et 21, il dit « Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase de limon. Voici le cœur de celui qui s'entête à marcher sans Dieu. Son cœur ne trouvera pas le repos. Son cœur est constamment agité et soulève de la vase. Mais à celui qui est contrit et humilié par son péché, je vais placer des louanges sur ses lèvres. Ce qui va sortir de ses lèvres, c'est paix. Paix à celui qui est près et à celui qui est loin. Paix à celui qui revient à Dieu. Je vais le guider pour qu'il sorte de là. Vous avez ici le cœur de Dieu pour Israël. Vous avez ici, je crois, ce qui se produit avec chacun d'entre nous lorsqu'on devient chrétien. Pour moi, c'est vraiment l'Évangile qu'il y a ici. Cette grâce où Dieu me montre ma folie, mon péché. Je suis humilié par ma vie, par certains choix que j'ai faits dans ma vie, par certains de mes agissements, certaines des idoles dans ma vie. Il les expose, il me les montre. Puis Dieu vient vers moi, ne conteste pas éternellement, mais il vient et me relève, me console et me guérit et apporte la paix dans mon cœur de savoir que je suis en communion avec mon Dieu. Alors vous avez ici l'histoire d'Israël, vous avez ici l'histoire de chacune de nos conversions, chacun d'entre vous qui êtes chrétien, et vous avez l'histoire aussi de chacune des fois où nous nous repentons comme chrétiens d'un péché dans lequel on s'est enfargé et auquel on s'est abandonné. Encore une fois, Apocalypse 3:20, Jésus dit, « Je me tiens à la porte et je frappe. Je veux entrer, je veux rétablir la communion avec toi. » Ça, c'est l'Évangile de Jésus-Christ qui est annoncé ici. Et c'est ce Dieu-là que je sers. Un Dieu qui me connaît pour ce que je suis, qui a compassion de moi. Et dès le moment où je commence à pleurer sur mon péché, reconnaître ma bêtise, ma folie, s'approche de moi pour me guérir, me consoler, me guider et me redonner la paix. On va prier ensemble. Père éternel, je veux t'adorer. Je veux bénir ton nom parce que tu es un Dieu merveilleux, Seigneur. Père, je veux dire, je ne voudrais être nulle part ailleurs qu'auprès de toi. Je ne voudrais être, Seigneur, dans aucun autre style de vie, en train de servir aucun autre Dieu que ce Dieu de grâce que tu es. Ce Dieu qui a compassion de moi, qui m'a consolé, qui m'a guéri, qui a apporté la paix dans mon âme, dans mon foyer, dans ma vie, dans mes relations, dans ma communion avec toi, Seigneur. Tu as placé des louanges sur mon cœur, Seigneur. Je veux te prier, Père, pour tous ceux et celles qui sont dans cette disposition de cœur, qui ont le cœur contrit et humilié par un péché, par un style de vie, par leur vie carrément, Seigneur. Parle-leur de ta grâce et de l'amour de Jésus-Christ à la croix, de ce sacrifice qui a été fait pour le pardon des péchés. Parle-en, Père, je te prie, à celui qui ne te connaît pas et qui a encore besoin de connaître l'Évangile de Jésus-Christ. Parle-en, Père, à celui qui s'est éloigné de toi, celui qui est triste et abattu, ne sachant pas comment se relever. Parle-en, Seigneur, à celui qui souffre loin de toi. Et viens placer des louanges, Seigneur, sur nos lèvres et la paix dans nos cœurs. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.